Voilà, soyons dans la paix, la grâce, la bonté, la justice du Seigneur, que l'Esprit Saint puisse travailler nos cœurs ce matin, comme il a commencé de le faire. Je vais lire dans Galates chapitre 2, versets 2 à 6, juste donc quelques versets déjà. Et donc ce fut une révélation que je montais d'après une révélation que je montais à Jérusalem, dit l'apôtre Paul. Et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour nous épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Ce passage que j'ai lu intégralement pour mentionner le fait que parmi les apôtres, les apôtres étaient considérés. Il y avait de la considération pour les premiers apôtres. Et l'apôtre Paul lui-même avait de la considération pour eux. Quels qu'ils étaient jadis. Voilà, le Seigneur Jésus avait pris des hommes du peuple, des hommes simples, sans instruction, c'est mentionné aussi ailleurs, et il en avait fait ses apôtres. Et à partir de ce moment-là, ces hommes ont été considérés pendant toute leur carrière, en quelque sorte d'apôtres, de serviteurs de Dieu, ils ont été considérés. Et donc, pour amener donc les choses à ce que nous, la manière dont nous voyons nos frères et sœurs dans la foi d'une manière générale et les serviteurs de Dieu d'une manière particulière. Nous avons vu, avant donc que nous vous laissions pour deux dimanches, nous avons vu que la repentance véritable produit une vie vraiment nouvelle, du fruit et, comme l'apôtre le dit, des œuvres dignes de la repentance. Et nous avons considéré la vie chrétienne pour rester cohérent avec la dignité que nous avons en Christ, marcher, se conduire en fonction de l'appel de Dieu et de l'espérance de voir Christ. Donc, un effort pour correspondre à ce que Christ a fait de nous. Mais aujourd'hui, nous avons aussi examiné la réelle dignité dans laquelle marchent les saints. C'est une dignité réelle que Dieu nous demande de nous reconnaître mutuellement. Lorsque nous voyons un saint, un enfant de Dieu, nous voyons quelqu'un de digne et nous devons l'apprécier dans sa qualité de saint, dans sa qualité d'enfant de Dieu, avec toute la dignité, c'est-à-dire l'élévation que Dieu lui donne. Parce que Dieu nous prend là où nous sommes, dans notre condition de pécheur, et bien souvent dans notre condition humaine, défavorisée, et Dieu nous élève. Il nous rend dignes, il nous élève dans la dignité. Alors cette dignité peut être reconnue par principe, mais elle peut aussi s'imposer à notre regard, si nous observons bien. Et ça donc implique un profond respect dans notre approche des saints, comme l'apôtre Paul respectait profondément les premiers apôtres. Nous-mêmes, nous sommes appelés à non seulement respecter, c'est encore trop faible, mais à considérer, avoir de la considération pour nos frères et sœurs dans la foi. Lorsque nous lisons dans 1 Timothée chapitre 6, versets 1 à 2, nous voyons deux principes qui sont à l'œuvre. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Ça correspond à ce que l'apôtre dit aussi au chapitre 2, verset 2. Donc de prier, de faire des actions de grâce, des requêtes pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc il y a un statut social, n'hésitons pas à le dire, qui fait que des personnes ont une position de dignité, une position plus élevée que les autres. Et l'apôtre Paul demande déjà aux chrétiens qui sont esclaves de reconnaître la dignité de leur maître, en règle générale, même s'ils sont des maîtres profanes. Regarde leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Donc là, il y a deux principes qui sont à l'œuvre. Le premier principe, c'est de reconnaître la dignité de tout maître, de toute personne à qui Dieu a donné une position sociale élevée. Et le deuxième principe, c'est de l'appliquer d'autant plus aux maîtres chrétiens. La proximité fraternelle, puisque le maître et l'esclave sont devenus frères en Jésus-Christ, la proximité fraternelle n'annule pas, bien sûr, la dignité de l'état naturel ou de la fonction. Et lorsque nous avons affaire à un chrétien qui est en charge de différentes responsabilités, eh bien, nous devons le considérer dans les responsabilités que Dieu lui a accordées et reconnaître vraiment la dignité qu'il porte à cause de cette responsabilité. C'est une première chose. Par principe, nous devons reconnaître la dignité de quelqu'un. Et aussi par observation, lorsque Paul, toujours dans Timothée, donc parle des enseignants, il dit au chapitre 5, verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Donc ici, c'est l'observation d'une bonne façon de gérer l'Église, surtout dans la transmission de la parole de Dieu, qui doit entraîner un respect supplémentaire qui se traduit par un honneur plus grand accordé à ses frères. Et le verset 18, avec aussi, si on lit le verset 1, semble indiquer qu'il s'agit d'une rémunération plus grande, reconnaissance très concrète de la dignité. Si l'on paye quelqu'un davantage, c'est qu'on lui reconnaît davantage de grandeur dans ce qu'il fait. Lorsque, donc nous lisons aussi dans 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc ici, on observe l'œuvre de celui qui travaille pour le Seigneur et à cause de cette œuvre, eh bien, il y a de la considération qui est engendrée, mais même aussi de l'affection. Donc nous ne sommes pas, vous voyez, dans quelque chose qui est seulement de l'ordre de la reconnaissance sociale. Il y a un vrai honneur qui est dans le cœur des chrétiens pour ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, Dans Philippiens 2, 29, il y a un exemple très concret que l'apôtre présente, c'est celui d'Épaphrodite. Donc, verset 25, nous voyons, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Voilà, il désirait vous voir, etc. Il avait été malade. » Et je, donc verset 28, je l'ai envoyé vers avec d'autant plus d'empressement afin que vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc ici, à cause de l'engagement de ce frère, eh bien, l'apôtre demande de le recevoir avec honneur. Honorer vraiment ce frère qui a engagé sa vie et qui a risqué même sa vie pour les chrétiens. Donc l'observation de l'engagement d'un enfant de Dieu, d'une manière générale, et d'un serviteur, bien, doit engendrer un honneur que nous attribuons à ce frère ou cette sœur. Je dis ce frère ou cette sœur parce que nous voyons l'exemple de Phébé dans Romains 16, versets 1 et 2, où Paul la mentionne en la recommandant donc aux Romains. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheret, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses dont elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Donc ici, c'est la qualité de diaconesse de Phébé qui est mise en avant par l'apôtre, mais c'est aussi la qualité de son service, de ce qu'elle a fait pour le Seigneur, qu'il met en évidence pour que les chrétiens la reçoivent d'une manière digne. Manière digne des saints. Alors, j'ai une petite hésitation sur la façon d'interpréter d'une manière digne des saints. A priori, je pense que ça veut dire que la recevoir d'une manière digne de la sainte qu'elle est, elle est sainte, donc voilà, considérer sa dignité. Mais on peut aussi penser de la manière digne des saints que vous êtes. Puisque vous êtes des saints, recevez-la donc d'une manière digne. Je pense plutôt pour la première lecture. Mais par contre, si nous allons dans 3 Jean chapitre 5, verset 5 à 8, puisque il n'y a qu'une seule, un seul chapitre à cette épître, il y est question donc, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Ici, c'est une autre expression, accueillir d'une manière digne de Dieu. Bien sûr que ce n'est pas ses frères qui sont Dieu, mais vous êtes du côté de Dieu, donc vous devez agir en son nom. Ces frères qui ont prouvé leur qualité de service pour Dieu doivent être reconnus en fonction de la grandeur de Dieu, comme si c'était Dieu lui-même qui les accueillait à travers les frères. Vous savez que dans le livre des Rois, au chapitre 10, verset 13, il est question de Salomon et de la reine de Séba qui l'a visité. Et il est dit que le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et il lui fit en outre des présents digne d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Un roi comme Salomon ne pouvait pas faire des présents moindres. Il fallait qu'il fasse des présents digne de son statut de grand roi de Jérusalem. Et quand donc l'apôtre nous demande d'accueillir des saints d'une manière digne de Dieu, c'est-à-dire c'est avec toutes les ressources, toutes les possibilités que Dieu nous accorde, c'est à la gloire de Dieu que l'apôtre nous demande d'accueillir. Alors donc, de quel point de vue, en quelque sorte, partez-vous lorsque vous considérez vos frères et vos sœurs dans la foi ? Vous pouvez partir du point de vue de la dignité que Dieu leur a donnée en tant que ses enfants, alors abordez-les comme tels, auquel cas vous pouvez leur ajouter une dignité supplémentaire, en parlant à la manière des hommes, comme dit l'apôtre, en considérant ce que vous observez de leurs engagements, de leur service pour Dieu, de la qualité de leur vie chrétienne, oui. Mais déjà, par leur condition, donc, ils sont dignes. Lorsque nous nous saluons, lorsque nous nous rencontrons, lorsque nous parlons les uns des autres, nous parlons de saints, nous parlons de personnes dignes, nous parlons de personnes que Dieu a élevées. Donc nous devons nous reconnaître mutuellement cette position élevée dans laquelle le Seigneur nous place. Et ça s'applique à tous, serviteurs de la parole, diacres ou simples chrétiens, hein, au plus petit d'entre mes frères, comme dit Jésus, n'importe quel chrétien, enfant de Dieu, et par nature, dans la dignité du Seigneur. Et puis, vous pouvez considérer les choses du côté de la dignité de Dieu lui-même, qui vous demande d'agir en son nom, d'accueillir en son nom. Tout ce que Dieu vous a donné entre alors en jeu pour honorer son enfant qu'il met devant vous. Si Dieu vous a donné des moyens financier, par exemple, eh bien, vous avez cette responsabilité d'agir comme Dieu agirait envers ce frère, cette sœur, par les moyens qu'il vous a donnés. À la fin, Dieu établira la dignité de ceux qu'il a appelés, puisqu'il va les élever dans la gloire. Et si nous lisons, par exemple, tout simplement Luc 20, 30, 34 à 36. Jésus dit, ceux qui seront jugés dignes. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Voilà le Seigneur qui va donc élever dans une parfaite dignité ceux qu'il a appelés à son salut. Il va reconnaître leur dignité. Ils vont être semblables aux anges. N'oublions pas que les anges sont élevés en dignité, en force et en puissance. Et c'est d'ailleurs, Jude mentionne que, malheureusement, au commencement, avant le déluge, eh bien, certains anges ont abandonné leur dignité. Ils ont abandonné, ils n'ont pas gardé leur dignité, ils ont abandonné leur propre demeure. Mais sinon, au départ, donc, la position des anges, c'est d'être élevés en dignité. Recevoir force et puissance. Donc, à la résurrection, Dieu va établir la dignité de ses enfants en les élevant dans sa gloire. D'ailleurs, l'Apocalypse, hein, bien sûr, vous connaissez ce passage de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Même dans un contexte où Donc, il y a eu une corruption dans l'attitude et la vie chrétienne. Certains sont restés dignes du Seigneur et ils seront revêtus de vêtements blancs. Donc, je voulais dire ce message par rapport au fait que nous sommes appelés au départ à reconnaître que nous sommes pécheurs, donc nous ne sommes pas dignes. Et l'apôtre Paul lui-même dit à un moment donné, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, hein, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc ça, c'est le point de départ. Mais nous ne devons pas nous laisser abuser, en quelque sorte, par ce constat du départ. Hein, premièrement, le « je ne suis pas digne » nous tient dans l'humilité, mais ça ne nous autorise pas à nier la dignité dont Dieu nous revêt dès l'instant où nous devenons ses enfants par la foi en Jésus-Christ, dès l'instant où il nous fait les témoins de sa grâce et de sa puissance, nous devenons dignes en Jésus-Christ. Notre nature de pécheur faisait que nous étions indignes, et puis nous pouvons garder à l'esprit peut-être certaines fautes particulières ou notre condition supposée indigne au départ, notre condition sociale, notre condition intellectuelle peut-être qui fait que nous ne sommes pas très dignes. Mais ça ne nous enlève pas la responsabilité de nous conduire maintenant dignement. Nous avons une nouvelle nature en Jésus-Christ et donc nous avons aussi une nouvelle marche qui correspond à la dignité que le Seigneur veut nous accorder, à l'élévation que le Seigneur produit, et il la produit effectivement, concrètement. Le Seigneur élève ceux qu'il appelle à lui. Je garde à l'esprit un témoignage qui avait été rapporté d'une personne, d'une femme, je pense, si je me rappelle bien, qui n'avait aucune instruction, n'était pas capable de lire, etc., et qui s'est converti au Seigneur, et qui, en se convertissant, a été transformé même dans ses capacités intellectuelles. Elle a appris à lire, elle est devenue quelqu'un de très donc intelligente au plan intellectuel, hein, par sa conversion au Seigneur. Donc c'est aussi une manière dont le Seigneur élève en dignité ceux qu'il appelle à lui. Il leur donne des capacités, il leur donne, parfois il les élève socialement aussi, hein, par sa grâce. Et puis, bien sûr, ne pas oublier que dans notre marche, parfois nous commettons des fautes qui entament notre dignité, mais qui ne nous l'enlèvent pas totalement, qui ne nous l'enlèvent pas absolument. Nous restons des enfants de Dieu, nous restons dans la dignité du Seigneur, même lorsque une faute peut porter ombrage à cette dignité. Et si nous persistons aussi dans ces fautes, dans cette paresse spirituelle, etc., nous pouvons porter atteinte à la dignité que le Seigneur nous a accordée. Et voilà, nos frères et sœurs peuvent constater parfois que nous ne marchons pas d'une manière digne de ce que le Seigneur nous a, la manière dont le Seigneur nous a constitués, mais foncièrement, nous pouvons toujours revenir très rapidement par la repentance et par l'humiliation à la vraie position que nous avons, retrouver notre position de sainteté et donc aussi notre dignité. Et nous devons donc bien plus progresser, hein, en dignité visible, puisque nous sommes dignes et saints par nature, avec un cœur qui se revêt de Christ, avec un esprit qui se laisse travailler, instruire, reformer par la présence du Saint-Esprit, par la lumière de la parole de Dieu, en nous abaissant devant Dieu. Il est dit que le Seigneur nous élèvera. Celui qui s'abaisse, qui s'humilie, le Seigneur l'élèvera. Et ça prend des aspects très concrets. Le Seigneur permet et donne, par exemple, des responsabilités à quelqu'un qui, au départ, n'en avait aucune capacité, parce que le Seigneur l'élève en dignité, il élève qui il veut, il donne des capacités à qui il veut, et donc nous devons toujours espérer, regarder nos frères et sœurs avec tout le potentiel que le Seigneur leur donne, le potentiel de dignité, les capacités que le Seigneur veut bien avoir dans son cœur pour eux, et qu'il va permettre qu'ils manifestent au cours de leur vie et de leur ministère. Notre vie chrétienne devrait être un progrès dans la dignité que le Seigneur nous confère au point de départ. Et que ce soit vraiment le cas pour vous, que pendant cette année déjà, il y ait cet esprit de reconnaissance mutuelle qui puisse se manifester. Et vous savez bien que on se comporte aussi en fonction du regard que l'on a sur nous, hein, et que si on se considère mutuellement comme des saints, eh bien on va aussi se comporter mutuellement comme des saints, parce que nos frères nous attribuent cette qualité, et nous n'allons pas vouloir les décevoir non plus que le Seigneur qui nous a sanctifiés. Amen.